C'est une doléance que l'on entend de plus en plus dans les réunions du grand débat national, l'accès aux soins, à la santé dans tous les territoires. Et mercredi, en Conseil des ministres, mercredi prochain, Agnès Buzyn va présenter son avant-projet de loi santé qui inquiète fortement certains médecins et beaucoup d'élus locaux, notamment ceux des petites villes, mais pas seulement. Bonsoir Jean-Paul Hamon.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste à Clamart, juste à côté de Paris, président de la FMF, la Fédération des médecins de France. Alors on va commencer par le premier point. Le gouvernement va définir par ordonnance les missions de 600 nouveaux hôpitaux de proximité. Des établissements qui ne comporteront sur le papier ni maternité ni service chirurgical. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que c'est un démantèlement qui ne dit pas son nom? Ou au contraire, est-ce une meilleure adaptation de l'hôpital à la population?
Je pense que c'est une mesure courageuse. Il faut absolument réorganiser les soins sur l'ensemble du territoire. Je vois des gens qui sont inquiets quand la maternité de leur ville disparaît parce qu'ils font moins de 300 accouchements par an. C'est tout simplement une question de sécurité sanitaire. Moi, je pense souvent aux habitants de Belle-Île-en-Mer qui avaient une maternité qui a fermé. C'est sur une île. Et on est à 45 minutes de Quiberon, qui elle lui-même n'a pas de maternité. Donc, en cas d'urgence, il y a l'hélicoptère. Et les femmes, il y a pas de problème. Elles se sont parfaitement adaptées. Donc, effectivement, il faut adapter les hôpitaux avec une sécurité nécessaire. On peut pas maintenir des équipes chirurgicales, anesthésistes et obstétriciens en permanence partout.
Alors, votre réponse m'étonne, je veux dire pourquoi. Le maire de Saint-Claude dans le Jura était interrogé par le quotidien du médecin, c'était lundi, et il en voulait à vos confrères médecins locaux. Le maire dit « Notre hôpital, ceux qui le défendent le moins, ce sont les médecins, je suis écœuré ». Et il accusait certains médecins de faire passer, je le cite, « leurs intérêts professionnels, personnels, avant la survie de son établissement ». Que lui répondez-vous?
Je connais bien le discours des maires, je comprends ça très bien. J'ai voulu monter, vous savez, une maison médicale de garde intercommunale à Clamart. Ouais. C'est-à-dire une maison de garde pour 8, 9 communes du sud des Hauts-de-Seine.
Et alors,
tous les maires étaient d'accord pour que je monte une maison médicale de garde intercommunale, à condition que ce soit sur leur commune. Et donc voilà, si vous voulez, je comprends ça, mais il faut faire comprendre à la population que on va s'organiser. Vous savez, moi j'ai une proposition qui détonne un petit peu. Je serais pour qu'on supprime les SAMU dans les grandes agglomérations où on est à moins de 20 minutes d'un vrai service d'urgence et qu'on les répartisse justement dans les communes où on en a réellement besoin. Vous savez, les paramédics dans les autres pays européens, ils vous transportent dans un service d'urgence en moins de 20 minutes. Il y a l'exemple de Lydie, vous savez, qui est connue, qui a passé un temps fou dans le camion du SAMU et donc elle a mis plus d'une heure ou plus de deux heures, je crois, pour arriver à l'hôpital, alors que si elle avait été transportée rapidement, elle avait une section des veines pulmonaires, je ne sais pas si on aurait pu la sauver, mais elle aurait été au bloc opératoire bien plus rapidement.
Il y a également le problème des déserts médicaux qui touchent beaucoup de gens, beaucoup de communes, et pas seulement dans les petites villes. Alors il y a les grandes causes qu'on connaît, le numerus clausus, en clair, le nombre limité d'étudiants en filière médecine, ce qui fait que désormais la France manque de médecins, ça va être changé, et aussi le fait que les jeunes médecins n'ont pas forcément envie de s'installer avec leur famille dans un territoire en pleine campagne, un territoire par exemple sans lycée, sans collège, à proximité, sans cinéma pas loin, sans boutique de mode, c'est aussi important, ou alors à une demi-heure de route, et ironie, sans hôpital à côté. Comment résoudre ce cercle vicieux? Parce que leur décision est fondée et du coin du bon sens.
Mais vous savez, j'ai souvent défilé avec ma pancarte « Un métier d'avenir ». Médecin, postier, instituteur pour nonnes ou moines. Parce que on demande aux médecins d'aller s'installer dans des endroits où il n'y a plus ni poste ni école, et encore moins de transport. L'Île-de-France a perdu 20% de ses médecins libéraux en 10 ans, et que Clamart, qui est à 2,5 km d'ici, est devenue une zone prioritaire.
Et c'est pas fini, la moitié des médecins libéraux de l'Île-de-France seront en âge de partir à la retraite d'ici 5 ans.
Et le système tient parce qu'il y a 12 000 médecins retraités actifs qui évitent que le système s'effondre. J'en fais partie. Moi, ça fait 7 ans que je devrais être parti à la retraite. Je continue à travailler parce que c'est un métier qui me passionne. Mais je peux vous dire que ces 12 000 médecins retraités actifs maintiennent le système en survie.
Comme il y a de moins en moins de médecins généralistes, les gens vont de plus en plus aux urgences. Le nombre de visites aux urgences a doublé en 10 ans, alors que la population n'a pas doublé. Et l'engorgement, on le sait, des services d'urgence est très souvent dénoncé. Or, Un rapport de la Cour des comptes pointe le fait que la hausse de la fréquentation des urgences permet aux hôpitaux, je cite, de dynamiser leurs recettes, en clair, de gagner de l'argent.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est dévoyé ce système.
Mais c'est un système qui est complètement déconnant. Il serait temps de modifier. Vous savez, j'ai entendu aux commissions des comptes de la santé, toutes les têtes couronnées du gouvernement nous dire, c'est formidable, la dette sociale va être remboursée, nous remboursons 15 milliards par an, nous aurons fini de le rembourser en 2024. Et alors là, je leur ai dit, mais attendez, pourquoi vous ne mettez pas la dette hospitalière dans la dette sociale, dans les 29 milliards, et on met 2 ans de plus pour rembourser complètement la dette. Et là, on peut faire une vraie réforme du système de santé. Là, parce que vous avez raison de souligner que les urgences, ça rapporte 3 milliards aux directeurs d'hôpitaux, enfin 3 milliards au budget de l'hôpital. Et donc avec ça, ils remboursent leur déficit. Et ils ne sont pas encouragés à éduquer le patient au bon usage de l'hôpital. Or, il faudrait qu'il y ait une vraie éducation du patient, c'est-à-dire que les médecins libéraux aient les moyens d'accueillir toutes les personnes qui n'ont strictement rien à faire aux urgences, et puis que les hôpitaux ne soient pas payés pour accueillir les urgences à bras ouverts.
Il y a encore beaucoup de dossiers sur la table. Il y a la question des assistants médicaux, ce sont des postes d'aide, j'explique, à la fois médicales et administratives. Emmanuel Macron s'était dit favorable à ce système. Il avait expliqué que les assistants médicaux viendraient soulager les médecins qui se regrouperaient, mais... Si j'ai bien compris, les syndicats de médecins réclament que chaque généraliste ait son assistant. C'est évidemment louable, mais est-ce que c'est économiquement réaliste?
Ça créerait environ 30 000 emplois.
Oui, mais financer comment?
C'est simple.
En augmentant la consultation?
Mais non, pas du tout.
Ou en creusant le déficit de la Sécu?
Mais pas du tout.
Ah bah, il faut bien que quelqu'un paye.
Mais non, mais
soit c'est la Sécu, soit c'est le patient.
Mais on est tout à fait d'accord, mais...
Répondez-moi.
Oui.
Qui le paierait?
Non, mais
l'assistant, qui le paye?
On peut très bien répartir les fonds autrement.
Donc moitié-moitié.
Non, on peut très bien répartir les fonds autrement sans que ça coûte à qui que ce soit. Vous savez, vous avez les complémentaires qui bénéficient des contrats responsables. Vous savez, les fameux contrats. Et pour ça, pour bénéficier des contrats responsables, elles doivent faire de la prévention. Et donc, elles financent des actes de prévention et ça coûte 1,2 milliard aux mutuelles.
Ouais.
Là, et c'est une prévention totalement hétérogène. Est totalement inefficace parce que les gens qui vont à ces actions de prévention sont des gens qui sont déjà multi-surveillés. Bon. Donc ce 1,2 milliard, transférons-le sur les soins non programmés et l'organisation des soins non programmés. Eh bien, ça ne coûterait rien aux mutuelles, c'est un transfert de fonds, les gens continueraient à être remboursés et les médecins auraient les moyens d'accueillir correctement les patients avec du personnel.
Et alors pourquoi on ne vous dit pas oui?
Mais tout simplement parce qu'ils ont les ménages bloqués en face.
Elle va être contente, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, d'entendre qu'elle a les ménages bloqués. Qu'est-ce que vous lui dites quand vous la voyez?
D'abord, on ne la voit pas souvent. Deux, quand j'ai eu le projet de loi, il y a lundi dernier, qui va être présenté en Conseil des ministres, discuté à l'Assemblée nationale le 18 mars, j'ai demandé un rendez-vous d'urgence à son directeur de cabinet. Ça fait une semaine, il ne m'a pas répondu.
Vous savez quoi? J'ai l'impression que les urgences sont encombrées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Paul Hamon, médecin et président de la FMF, la Fédération des médecins de France.
Europe 1.
À suivre notre grand débat d'actualité, la violence qui ne faiblit pas avec les gilets jaunes alors que les effectifs diminuent, l'organisation du référendum qui pose déjà problème avant même qu'il existe, et l'étrange stratégie de Manuel Valls en Espagne, il défile avec la droite et l'extrême droite.